franceinter.fr.
Pop, etc. Avec Valérie sur France Inter.
Our joke was, what if we pretend to be French? That way we'd avoid the racist middleman, and they would just say, well, who are these guys? We said, well, we're French. Oh, French, okay, it's cool. You're not black. It's like, well, of course we're black. But they didn't know. They looked at the name of our band. They said, is that Chic? And we said, no, it's Chic. We're French, you know, c'est Chic.
Notre blague était, et si on disait qu'on est français? Comme ça, on trompe le raciste américain de base. Du coup, c'était, c'est qui ces mecs? On est des Français! Ah, c'est cool, vous êtes français, vous n'êtes pas noirs. Non, nous sommes pas noirs, nous sommes français. C'est pas chic, c'est chic. C'est Nile Rodgers qui explique la genèse de son groupe Chic, et on comprend la complexité à percer en Amérique en 1977 pour un groupe de noirs. Ce soir, dans la série Les Hommes et les Femmes de Londres, l'histoire de l'incroyable Nile Rodgers, auteur, compositeur, guitariste, derrière une multitude de tubes mondiaux. De passage à Paris en juin dernier, j'ai eu la chance de le rencontrer. Pour des anecdotes, pas besoin de lui tirer les vers du nez, il a un sens inné du storytelling. Avant de plonger dans son récit, quelques morceaux produits ou écrits par Rodgers, des good times garantis jusqu'à 1h du matin sur France Inter.
Upside down.
35 ans de morceaux produits et ou écrits par Nile Rodgers, formidable homme de l'ombre et de la lumière qui continue à faire danser la planète grâce au tube Get Lucky, le tube de l'été des Daft Punk. Ce titre a permis à la nouvelle génération de le découvrir. Il est mon invité dans Pop, etc. ce soir. Nile Rodgers est né le 19 septembre 1952 dans le Bronx. Sa mère Beverly n'a que 13 ans. Le père fout le camp et Beverly se recase avec un autre homme qui élève le jeune Nile comme son fils. Vers l'âge de 7 ans, il se rend compte que sa famille est différente. Il réalise pour la première fois que son beau-père, Bobby Glanzrock, est blanc. Et à la fin des années 50, les coups biraciaux étaient peu communs. Donc, des parents noirs et blancs, et pour compliquer encore des choses, ils sont aussi junkies. Ça n'empêche que l'appartement familial dans le Greenwich Village à New York baigne dans la culture littéraire et musicale. On écoute le jazz moderne, le bebop, des artistes comme Nina Simone, Clifford Brown, Julie London, Ahmad Jamal ou Herbie Hancock. Le comique Lenny Bruce ou le musicien Thelonious Monk étaient des invités réguliers dans le salon de Nile Rodgers. Quand il a 7 ans, Nile Rodgers et sa mère se réinstallent à Los Angeles pendant quelques années. Dès l'adolescence, Rodgers connaît la rue, il est débrouillard, c'est sex and drugs and Beatles. Dans son autobiographie, Nile Rodgers raconte l'impact que la chanson de John Lennon, A Day in a Life, a sur lui. Il écrit ceci. Je dois dire que j'ai senti l'effet d'une vraie montée, comme avec la dope, pas une montée quelconque, non, du genre de celle qu'on a la première fois. C'était de l'acide, de la colle, de la bibine, un orgasme. Honnêtement, je n'ai jamais vraiment rien connu de comparable depuis. Il écoute la chanson non-stop pendant 24 heures, et c'est à partir de cette nuit blanche qu'il choisit son instrument définitif, la guitare. Teenager, Rodgers avait déjà une solide éducation musicale.
À l'âge de 15 ans, j'étais déjà très fort en composition. J'avais commencé à l'âge de 6 ans, à l'école, en jouant des instruments rudimentaires. Mais je changeais souvent d'école. Et à chaque fois, j'apprenais un nouvel instrument. J'apprenais donc les bases, la théorie musicale. Et c'est toujours la même qu'on joue de la flûte, du piccolo, de la clarinette. Je progressais donc en théorie musicale. Et arrivé à l'âge de 16 ans, j'étais familier avec tous les instruments d'un orchestre symphonique. Je savais comment composer, écrire pour ces instruments et faire des orchestrations. Et donc, quand l'époque du disco nous est tombée dessus et que j'ai voulu composer notre propre musique, on n'avait besoin de personne. On pouvait se débrouiller tout seul, ce qui est la clé du succès de Chic.
Nile Rodgers comprend l'architecture de la musique, il a le feeling. Peut-être grâce au gène de son père biologique qui est percussionniste spécialisé dans les rythmes afro-cubains. À 15 ans, il s'est écrit dans son autobiographie comme un petit hippie noir et rachitique du Bronx ayant fait un crochet par le village et L.A. À 19 ans, il signe son premier contrat de musicien professionnel et joue aussi dans l'orchestre de l'émission pour enfants 1 rue Sésame. Il est déjà un petit phénomène rare, mais c'est la rencontre avec son alter ego Bernard Edwards qui change son destin.
On s'est rencontrés sur ce qu'on appelle un pick-up gig. Un boulot où le chef d'orchestre est engagé pour inviter d'autres musiciens. Bernard et moi, on s'est rencontrés sur ce coup-là. Je ne connaissais personne sur ce plateau, j'étais le nouveau. Mais après quelques morceaux, Bernard et moi, on a pris les choses en main pour l'orchestre. On leur disait quels morceaux jouer. Et si jamais personne ne connaissait la partition, on leur donnait les changements d'accords avec des numéros, de bémol, ou 5, ou 4, ou 6, etc. C'est du vocabulaire rudimentaire de jazzman. Enfin, c'est plutôt sophistiqué. Beaucoup de musiciens n'aiment pas travailler les morceaux avec des numéros.
We were really good working
musicians. Mais vraiment, on travaillait bien.
And the fact that we were doing this on the first
job together. Et dès notre premier engagement, on dirigeait, même si on n'était pas chef d'orchestre. Le vrai boss était celui qui nous avait engagés. C'était lui la star, il était mis en avant, on devait le mettre en valeur. Tout naturellement, nous sommes devenus arrangeurs, organisateurs pour cet orchestre et pour tous les autres avec lesquels on a travaillé. C'était très rare que je ne sois pas engagé pour gérer les choses. Ou alors c'était Bernard. Et même si ce n'était pas ce pour quoi j'étais engagé, moi, ça finissait toujours comme ça. Ce qui est marrant à propos de cette rencontre, c'est qu'après ce soir-là, Bernard et moi sommes devenus inséparables. Mais trois semaines avant cette rencontre, on s'était eu au téléphone. Je lui avais dit le genre de groupe que j'essayais de rassembler, genre fusion, jazz, rock, blues. La mère de ma copine travaillait à l'époque à la poste avec Bernard pendant la journée. Et d'après mon projet, il m'a trouvé tellement naze qu'il m'a raccroché au nez en me disant d'oublier son numéro et de ne plus jamais l'appeler.
Le premier groupe de Nile Rodgers et Bernard Edwards s'appelle The Big Apple Band. Donc, on vient d'écouter la reprise de Getaway, Dirt, Wind and Fire, dans laquelle on reconnaît bien la patte des futurs membres de Chic. Mais c'est avec le morceau Everybody Dance qui décroche leur premier tube de discothèque. Nile Rodgers raconte.
When I started to compose dance music,
quand j'ai commencé à composer de la dance,
a new thing happened.
Tout d'un coup, un truc nouveau est arrivé. Le disc jockey a pris le pouvoir. Le DJ devait montrer qu'il savait mettre les gens sur la piste de danse. Il n'avait plus à faire les malins, à montrer de quelle école de musique ils venaient, à dire avec qui ils sortaient. Non, non, rien de tout ça. S'ils passaient un disque, est-ce que les gens dansaient? Et s'ils avaient la réputation de passer des disques qui faisaient danser les gens, ou la réputation de passer des nouveautés qui faisaient danser, là, ils devenaient vraiment cool, car ils innovaient. Moi, j'ai pu écrire une chanson qui a rendu un copain DJ très connu. Il a été le premier à la passer. Ça s'appelait Everybody Dance par Chic. Et ça a fait un tel ramdam. L'enregistrement de cette chanson nous avait coûté $10. Et on n'avait même pas assez de fric pour faire une copie, pour la garder. Mais lui, il y est allé et il s'est fait faire deux exemplaires. Mais il ne nous a rien dit. Il a fait un petit mixage grossier. Il est rentré dans sa discothèque, son club. Et il a passé la chanson pendant trois semaines. Après trois semaines, il m'a invité à passer pour que je voie un truc. Il n'a rien dit. Ça faisait partie de la blague. J'arrive là-dedans et je ne croyais pas qu'il était en train de passer ma chanson. Tu te fiches de ma gueule? Et tout le monde dans la discothèque chantait.
Everybody dance. Do-do-do-do, clap your hands, clap your hands. And the whole place.
Tout le monde chantait là-dedans. Fou allié. Un vacarme infernal.
And they were all playing air guitar and
tout le monde faisait semblant de jouer de la guitare ou de la basse parce que la musique faisait. Ils étaient complètement accros. Et moi, qu'est-ce qui leur prend? Notre petit disque faisait du bruit dans tout New York.
Soothes your mind, makes you happy again.
C'est chic, je suis Nile Rodgers dans Pop, etc.
Oh là là, la basse qui chante de Bernard Edwards avec bien sûr Nile Rodgers à la guitare. Alors malgré le succès en discothèque de Everybody Dance, aucune maison de disques ne veut signer le groupe. Être noir, même dans l'industrie musicale de la fin des années 70, n'était pas une bonne carte de visite. Nile Rodgers dit même que c'était un handicap majeur. Malin, il s'inspire du groupe anglais Roxy Music et de leur chanteur dandy Brian Ferry.
I had seen Roxy Music performing in London.
J'avais vu Roxy Music sur scène à Londres. Et c'était la première fois que je voyais un groupe habillé comme des gravures de mode. Chez les musiciens blacks, les gens se déguisaient un peu. Vous voyez les Jackson 5, ils étaient habillés pareil. On voit que c'est du sur-mesure, mais ça fait un peu harlequin. Costume de cirque, bouffon du roi. Bon, c'est cool. C'est plein de couleurs, mais c'est clairement pas du Saint-Laurent. Et là, je vois Roxy Music et je me dis, waouh, c'est de la haute couture, c'est pas mal. On a alors pensé à la seule époque dans la musique noire où les musiciens s'habillaient élégamment, où ils se sapaient, si vous voulez. On a pensé aux années 20, à Duke Ellington, Cab Calloway, Count Basie, qui imitaient les mondains de l'époque, la Café Society, comme on dit en Amérique.
Et dans les années 70, les Noirs montaient dans l'échelle sociale.
Oui, les Noirs grimpaient dans l'échelle sociale à l'époque. On appelait ça le mouvement BAPI, les Noirs urbains aisés. Ils bossaient à Wall Street. Le genre de gens qui viennent de là, c'est Oprah Winfrey, Bob Johnson, qui a fondé la première chaîne black de divertissement, Dick Parsons. Ils accédaient au pouvoir pendant l'époque de Chic et allaient ensuite devenir les premiers milliardaires noirs américains.
Vous avez reconnu Cab Calloway, Jump and Jive. Nile Rodgers et Bernard Edwards s'inspirent aussi bien de Roxy Music et Cab Calloway que d'artistes noirs américains ayant trouvé du succès en France. Et ça va leur donner une idée.
Ces artistes ont trouvé leur public, et même s'il s'agit de notre culture américaine classique, c'est notre art à nous, mais ces gens ont trouvé la reconnaissance en France, plutôt qu'en Amérique, c'est connu. Josephine Baker est venue en France, Nina Simone, des gens comme ça étaient mieux vus ici. Donc nous, notre blague, ça a été de dire, et si on faisait comme si on était français ? Qui habitent aux États-Unis. Du coup, on évitait le raciste moyen. On disait, on est français. Ah, français, ah bon, d'accord, c'est cool, vous n'êtes pas black alors. C'était débile, bien sûr qu'on était black. Bien sûr qu'on était américain. Mais ils n'en savaient rien. Ils regardaient le nom du groupe, on prononce chic. Non, 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 on dit chic, on est français. C'était bête. L'Amérique n'est pas un pays démesurément sophistiqué, croyez-moi. On peut presque dire n'importe quoi là-bas et tout le monde vous croit. Parce que la plupart des Américains n'ont même pas de passeport, ils ne sortent pas de leur État et encore moins de leur pays. Alors arrive un groupe qui s'appelle Chic ou Chic, qui joue de la musique cool avec du groove et ils se disent « Ce groupe de français est super !» Nous, on trouvait ça marrant, c'était une blague, mais ça fonctionnait.
It was a joke, but it worked. Dancing.
Dance, 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 yowza, 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 1977, Nile Rodgers est mon invité ce soir avec Chic.
Pop, etc. Avec Valley sur France Inter.
La musique de Chic ne tape pas encore dans les oreilles d'un label, mais dans celle qui est déjà une icône dans la culture club, Grace Jones.
We were invited by Grace Jones.
On avait été invité par Grace Jones, qui était une énorme superstar dans ces années-là, 1977. Grace Jones était l'incarnation de quasiment tout ce que nous voulions devenir. Grace Jones était donc une star. Elle avait entendu notre chanson, Everybody Dance, et avait trouvé ça génial. Il faut que je me dégote ces mecs-là. Elle nous a fait venir pour nous rencontrer. Elle voulait qu'on produise ce qui allait être son prochain album. Elle nous a dit que la seule façon pour nous de bien comprendre quel artiste elle était, c'était de la voir sur scène. On verrait mieux les choses. Nous, on a répondu, bien sûr, on adorerait vous voir sur scène.
I'm playing Studio 54.
Eh bien, je joue au Studio 54 le 31 décembre. Venez donc, parce que là, vous verrez. Et nous, yes, le Studio 54, 31 décembre, Grace Jones. Et elle nous a dit de frapper à l'entrée des artistes et de dire aux gardiens qu'on était des amis de Grace Jones. Nous, on se pointe, on frappe et on dit qu'on est des amis de Mademoiselle Grace Jones. Et le type nous claque la porte au nez en nous disant « Je t'emmerde ». On refrappe, on lui explique « On est des amis de Mademoiselle Grace Jones ». Il avait la tronche de Bela Lugosi. Et ça marchait pas, il était en colère. « Je t'emmerde ». Et il devenait clair qu'on n'allait pas entrer de toute la soirée. Alors on s'est acheté 2 bouteilles de champagne, on appelait ça notre bain de bouche rock'n'roll, on est retourné dans mon appart et on a commencé à improviser. Je t'emmerde. Et j'emmerde le Studio 54. On a commencé à trouver ça bon. Et on a écrit un pont et plusieurs possibilités de texte dont la réponse serait « Je t'emmerde. Si un taxi te coupe la route, je t'emmerde. Si ta mère veut que tu fasses tes devoirs, je t'emmerde. » On était morts de rire. On rigolait. Et Bernard finit par dire tu vois, on a quelque chose là. Je réponds, arrête, ça passera jamais. C'était un an et demi avant le hip-hop et les insultes dans une chanson, il n'en était pas question. On a donc changé pour
Freak Out. Because of Bernard's.
Bernard avait des arrangements sophistiqués, assez conceptuels. Et on s'est rendu compte qu'il existait une danse qui s'appelait The Freak. Et lui, il s'est mis à chanter Le Freak. Ce sont ses paroles, hein. Le Freak, c'est Chic. Et à cause de notre prononciation minable, parce qu'on voulait vraiment faire français, alors que Bernard vient du Sud profond et Luther, on se demande bien d'où il vient. Et quand on chante ensemble, c'est pas très clair ce qu'on dit. Et des gens en Afrique ont entendu
Africa.
Si, vous pouvez entendre.
Africa. L'Afrique. C'est chic.
Et même aujourd'hui, si je joue dans un festival et qu'il y a des musiciens africains, ils me regardent en disant, c'est lui qui a composé Africa, c'est lui. Ça a commencé dans les pays d'Afrique francophone et ça s'est répandu partout. Peu importe que ce soit en français pour eux, la chanson c'était Africa. Et c'est devenu la plus grosse vente de 45 tours du label Atlantic. Et c'est le label de Cream,
Led Zeppelin,
The Rolling Stones,
Crosby, Stills, Nash,
Aretha Franklin, Ray Charles, Yes, que des superstars. Mais leur plus grosse vente de 45 tours, c'est Africa.
Africa.
1978, le freak dans Pop, etc. À New York, Uptown, c'était Studio 54. Et Downtown, c'était Richard Hell au CBGBs. La machine à tube pilotée par Nile Rodgers et Bernard Edwards est en route. Les deux hommes se comprennent à demi-mot. Ils ont un système bien à eux. C'est le Deep Hidden Meaning, le DHM, le sens profond caché.
DHM, basically...
Le sens profond caché. En fait, dans le groupe Chic, dans mes échanges avec Bernard, on avait toujours des codes. Je pourrais détailler, vous donner plein d'exemples. Le DHM était le plus significatif de tous. Que l'on parle de bouffe, de nanas, de bagnoles, du talent ou pas d'un musicien, on avait notre jargon pour que personne ne sache de quoi on parlait. Le sens profond caché, c'était important pour nous. Pour Bernard et moi, pour comprendre l'ADN d'une chanson, pour distinguer la vérité de chaque morceau. Parce que moi, je n'ai jamais écrit de chanson qui ne se base pas sur la réalité. Aucune de mes chansons n'est de la fiction, à moins que je sois pour une musique de film. Mais là, je prends la réalité du film. Et donc, le sens profond des choses, c'est vraiment comprendre la vérité, le cœur de la chanson, son ADN. En tant qu'arrangeur, on peut venir me demander de faire une version reggae d'une chanson, mais si je ne sais pas ce qu'est la vérité intime de la chanson, je ne vais jamais savoir comment faire un reggae, en lui gardant sa singularité. J'ai vraiment, vraiment besoin de comprendre une chanson. Quand je travaille pour un chanteur, il me trouve bizarre parce que je les interroge. Tout comme vous, là, vous me questionnez ici. Mais j'ai besoin de bien connaître le sens de la chanson, ce qu'il veut dire avec. Je ne peux produire qu'un meilleur disque si je sais ce qu'il a à dire. S'il ne sait pas ce qu'il a à dire, comment je peux faire pour l'expliquer à d'autres?
C'est comme avec Madonna. Vous vouliez mettre en avant une chanson et elle une autre et vous ne compreniez pas.
C'est un excellent exemple. Quand on travaillait sur Like a Virgin, Madonna était obsédée par la première chanson, Like a Virgin. L'album entier s'appelait aussi Like a Virgin. Et je ne comprenais pas pourquoi, franchement. Parce que quand on écoute l'album, il y a tellement de chansons qui sont bien meilleures. C'est un grand album. Mon idée pour Madonna était la suivante. Écoute, les gens te prennent pour la petite sensation pop du moment. Mais tu peux durer. Moi, je vois bien qui tu es. J'ai tout de suite su que Madonna était la personne la plus singulière que j'avais jamais rencontrée, et elle l'est toujours. Je crois que celle qui me fait le même effet, c'est Janelle Monae. Quand j'ai rencontré Madonna, j'ai fait « Waouh, mais c'est qui cette fille ?» D'abord, j'ai rien compris et après, un ou deux jours, je me suis dit que je n'avais jamais croisé quelqu'un d'aussi obstiné, concentré, déterminé à devenir une star. Elle a montré ses chansons, elle m'a dit qu'elle voulait devenir une grande star ou qu'elle allait devenir une star. Je me suis dit, faisons-en le meilleur disque possible. Pour moi, sa chanson Material Girl, qui d'ailleurs résume sa personnalité mieux que toute autre, et là je lui disais, j'ai compris là qui tu es vraiment. Ça allait être son Girls Just Want to Have Fun à elle. C'est la chanson qui l'aurait fait exploser. Et elle m'a expliqué que Material Girl parlait peut-être d'elle, mais que Like a Virgin parlait à toutes les filles. Et moi j'ai fait, t'es sûr? Et elle m'a expliqué comment elle voyait le sens profond et caché de Like a Virgin. Et une fois qu'elle me l'a expliqué, je lui ai dit, écoute, si c'est comme ça que tu le vois, il faut qu'on la sorte de la façon la plus naturelle possible. Il faut presque que ce soit, disons, comme un disque de Bob Dylan. Bien sûr, ce n'est pas du folk, mais c'est simple. Et si vous écoutez Like a Virgin, on a simplement les musiciens et un seul overdub, un overdub qui fait...
You know, like a virgin, touch for the very first time, blip, 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 blip. That's it, one overdub.
Un seul overdub.
Et c'est tout.
Sa voix n'est doublée que dans le refrain. Il n'y a pas de choriste, rien. C'est comme dans un air de Bob Dylan ou de Johnny Mitchell. Dans les paroles, elle dit, je sors de nulle part, j'ai vécu la solitude. Et ça, c'est elle qui parle, et c'est personnel. Et ça, moi, je l'ai pigé. Il fallait que ce soit sous-produit, pas surproduit.
Thank you.
Madonna, Like a Virgin, extrait de l'album du même nom, produit par mon invité Nile Rodgers. Si Madonna a fait appel à Nile Rodgers pour la production de son deuxième album, c'est parce que le guitariste-producteur transformait tout ce qui touchait en or, ou plutôt en platine. Quand il commence Like a Virgin, il vient de donner à David Bowie son premier succès commercial en 14 ans de carrière, sans oublier tous les tubes disco à sa palmarès. Et Good Times a été utilisé sur le premier hit hip-hop de l'histoire, Rapper's Delight. Un seul point noir sur son parcours, le mouvement Disco Sucks, le disco craint. Ce mouvement démarre en été 1979 à Détroit, quand un animateur de radio, fan du rock, attristé de voir des morceaux de disco prendre de plus en plus de place dans les playlists, demande aux auditeurs de téléphoner pour proposer des morceaux de disco qu'il détruit en direct à coups de bruit d'explosifs. Le mouvement tourne à l'homophobie et au racisme, car le message sous-jacent, c'est que le disco est une musique pour des gays et des noirs. Nile Rodgers est encore écœuré aujourd'hui quand il en parle. Mais il s'anime à nouveau quand il évoque sa collaboration avec David Bowie.
David et moi, nous sommes rencontrés au petit matin dans un club. Et 95% des disques que j'ai faits dans ma vie sont le résultat d'une rencontre. On se rencontre, ça fonctionne, on décide que ça marche et qu'on va bosser ensemble. Les quelques disques qui ne se sont pas faits comme ça, c'était avec une artiste française, Sheila. Je ne la connaissais pas jusqu'à ce qu'on me la présente. Mais il y a très peu d'exemples. Avec tous les autres, c'est une rencontre. Bowie, Madonna, Duran Duran, Debbie Punk, Harry, Daft Punk, toujours pareil. David, donc, on s'est rencontrés dans ce club et on a discuté. On s'est bien entendu. On a parlé de ce qu'on aimait. Il m'a invité en Suisse pour travailler sur des maquettes. Moi, j'y vais et il arrive dans ma chambre pour me dire qu'il veut faire un album de hits. Qu'est-ce que tu veux dire par hit? Moi, je voulais du disco, j'en avais fait des hits. Je voulais sortir de ça. Je voulais qu'on me considère comme un producteur, pas comme un fabricant de dance ou de hits. Je voulais être un producteur de musique, un artiste. Et David Bowie représentait ma grande chance pour le devenir. Alors quand il m'a dit qu'il voulait des hits, j'ai trouvé ça décevant. Mais en même temps, c'était l'occasion de travailler avec une légende comme Bowie. J'étais un très grand fan de lui et depuis longtemps. Et donc là, je comprends le sens profond caché de tout le projet. Il veut faire des hits, ok, pas de problème. Il passe donc dans ma chambre et il commence à jouer ce qui deviendra Let's Dance sur une guitare folk à 12 cordes, mais il en a 6, et ça faisait un son très folk, très bizarre. Il chante et il me dit qu'il pense vraiment que ça peut faire un succès. J'étais un peu embêté. Ah bon, c'est ça qu'il appelle un hit? D'accord. Je lui demande de me montrer la chanson, je regarde le refrain et je lui dis « Laisse-moi faire un petit arrangement là-dessus ». Et il dit « Ok ». On a appelé des musiciens de jazz de la région. Le groupe Queen avait un studio en Suisse à l'époque, Mountain Studios, on y est allé. J'ai passé mon arrangement au jazzman et on a joué le groove de Let's Dance. Et David a fait « Waouh, c'est ça ma chanson ?» Et j'ai répondu « Ouais, c'est comme ça que je la sens. » Et après ça, tout a fonctionné comme sur des roulettes.
Dance the blues.
Let's Dance, produit par Nile Rodgers il y a 30 ans. Décrié par ses fans de la première heure, il reste la plus grosse vente d'albums de David Bowie. Nile Rodgers m'a expliqué, comme il le fait dans son autobiographie sortie aux éditions Rue Fromentin, que, encore une fois, la différence des races avait un effet même sur l'enregistrement d'un album en 1983.
Vous savez, les musiciens noirs avaient des budgets différents comparés aux musiciens blancs. Et même si nous avions un contrat en tant que groupe, le budget pour le premier album de Chic était de 35 000 dollars. Tout compris, c'est tout. Et on avait des musiciens du New York Philharmonic qui participaient. Gloria Agostini, la plus célèbre harpiste de New York. Et puis des musiciens de la scène jazz comme Luther Vandross. On rendait service à des copains, c'était comme ça que ça marchait. Jusqu'à ce que je travaille avec Duran Duran, je crois, tous les disques que j'ai faits, je les ai faits à la façon des albums de musique noire. On faisait des services de 8 heures. D'ailleurs, on a bouclé l'album Let's Dance en 17 jours. On commençait vers midi, ou on rentrait chez nous vers 7 heures, quelque chose comme ça, ou alors 10 heures du matin jusqu'à 5 heures. À New York, j'ai enregistré tous mes disques dans le même studio, au studio Power Station. On a tout enregistré dans le studio B, celui des Blacks, car les musiciens blancs avaient le grand studio qu'ils pouvaient fermer à clé. Nous, on ne fermait jamais à clé. On rentrait, on se réinstallait et on l'a mis en boîte en 17 jours.
Ah, incroyable. Après avoir fait le deuil de son ami et partenaire musical Bernard Edwards, mort en 1996, après avoir décroché de la drogue et guéri d'un cancer, Nile Rodgers est plus actif que jamais. Et si l'expression « Frenchy but chic » prend tout son sens, c'est bien avec lui. Il vient de collaborer sur le nouvel album d'Étienne Dao. Il a enregistré un morceau qu'il définit comme « a killer » avec David Guetta. Et bien sûr, il a fait son comeback avec Get Lucky des Daft Punk.
J'ai rencontré Daft Punk il y a au moins 17 ans. Bernard les connaissait déjà et c'était au moment de leur premier album. Ils étaient à New York à une fête. Je connaissais un ou deux de leurs morceaux, Daft Punk, et un autre dont j'ai oublié le titre. Et on s'est tout de suite appréciés. Et voilà, 17 ans plus tard, l'an dernier, ils m'ont appelé à New York pour me demander s'ils pouvaient passer me voir. Bien sûr, pas de problème. Ils sont venus me parler de leur nouvel album. Mais pas en me disant on veut ci, on veut ça. Mais en termes de concept. Et ils m'ont dit, et on a un morceau sur lequel on aimerait que tu joues. J'ai répondu, cool, j'adore jouer sur les disques des autres. Et je suis arrivé au studio Electric Ladyland, je dis, vous ne le savez pas, les gars, mais c'est ici qu'on a enregistré le premier single de Chic, Dance, Dance, Dance. Hendrix avait construit ce studio et je crois qu'il devait le savoir. Mais avant Hendrix, vous savez, c'était un nightclub qui s'appelait Generation et j'y étais tout le temps fourré, c'était le cœur du village à New York. On a parlé de tout ça, des vaudous sur les murs. J'ai commencé à jouer Get Lucky. Et je leur montrais la technique de Chic. Je décompose la chanson, je ne la joue pas en un seul bloc.
Et eux, waouh,
c'est comme ça que tu faisais avec Chic. Je dis oui, moi dans les années 70-80, c'est comme ça qu'on faisait des disques. Alors ils m'ont dit, écoute, travaille sur ce disque comme si les ordinateurs n'existaient pas. Alors pour moi, j'ai dit, il faut que votre jeu soit précis, il ne faut pas rater quoi que ce soit car on n'aura pas d'effet numérique pour rattraper tout ça après. Ce que vous jouez sera sur l'album. Et ils ont tellement aimé ça qu'ils m'ont sorti une autre chanson et puis une autre encore. Et je me retrouve sur trois chansons et sur chacune, je réécrivais un peu tout en travaillant. Et ça leur a tellement plu qu'ils les ont fait écouter aux autres musiciens avec lesquels ils travaillaient en disant écoutez ça. Et les mecs ont dû réécrire leur partie.
Sweat, sweat, sweat. Lose Yourself to Dance featuring Pharrell Williams, nouveau tube des Daft Punk sur lequel le nom de Nile Rodgers figure dans les crédits des musiciens, mais aussi dans les crédits des auteurs-compositeurs. Nile Rodgers fait ce qui lui plaît, mais sans oublier les autres. Il est très actif dans la fondation We Are Family qu'il a créée pour aider les enfants dans le monde entier. Nile Rodgers est en concert avec son groupe Chic mardi dans le cadre du festival Jazz à la Villette. Ils interpréteront tous les tubes de Rodgers qu'on a écoutés ce soir. Un double CD de tous ces tubes, The Chic Organization Up All Night, sort lundi chez Warner. Et n'oubliez pas son autobiographie fascinante, Nile Rodgers, c'est Chic, avec un avant-propos de Brian Ferry. Il est sorti aux éditions Rue Fromentin. Merci beaucoup, Nile Rodgers, d'avoir donné autant de temps pour cette émission. Et bien sûr, toutes les infos sont sur notre site, tapezfranceinter.fr. Vous pouvez la réécouter en podcast ou par streaming. La semaine prochaine, tout à fait autre chose, Vincent Delerme revient sur son premier album. Pop etc. a été réalisé par Eliane Gérard avec Maxime Anna. Merci beaucoup à Harold Manning pour la traduction. Elle a été préparée par Corinne Valente. La programmation musicale est signée Djoubaka. Très belle nuit. Juste après les infos, la lune a des oreilles avec Muriel Pérez.